Radio Kapi. Oh, Kapi. Grâce à Mzati pour le journal.
Au sommaire de ce journal, l'Association nationale des parents d'élèves du Congo ANAPECO salue la publication rapide des résultats de l'examen d'état édition 2025 obtenu grâce au recours à l'intelligence artificielle. Vous entendrez son président dans quelques instants. Les forces armées de la République démocratique du Congo encouragent les habitants de Lopa et Iga Barrière à Ituri à retourner dans leurs entités respectives car l'armée est déterminée à sécuriser la région contre la milice de Thomas Lubanga. Notre invité est le chercheur en intelligence artificielle Christian Tabaro Mugisho. Il s'exprime sur l'utilisation de cette technologie dans la correction de l'examen d'état en RDC. Bonjour, la publication des résultats de l'examen d'état se poursuit à travers le territoire national. Les derniers résultats rendus publics hier mardi soir sont ceux de Moamba à Kinshasa. Cette année, le ministère de l'éducation nationale a commencé la publication de ses résultats moins d'une semaine après la tenue de ses épreuves. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo ANAPECO, Steve Diatezwa, salue ces délais records qu'il considère comme une avancée technologique majeure dans le système éducatif congolais. Selon lui, cette publication rapide obtenue notamment grâce au recours à l'intelligence artificielle dans la correction de ces épreuves permet aux lauréats de procéder sans tarder à leur inscription dans les universités et instituts supérieurs tant au niveau national qu'à l'étranger. On écoute Steve Diatezwa dans cet extrait proposé par Blaise Longala Mayanda.
Je suis en train de suivre les différents débats dans les réseaux sociaux qui sont totalement emballés. C'est normal parce que chaque innovation porte un lot de questionnements. Mais pour moi, je trouve que la publication a été faite de façon hâtive. Moi, j'accepte les résultats tels qu'ils sont apparus. Parce que c'était déjà annoncé et elle a tenu parole. J'espère que ces services sont suffisamment outillés pour impacter cette innovation. Les avantages de cette publication, c'est qu'il y a moins de stress. Le temps d'attente est réduit et les élèves, les parents sont fixés une fois pour toutes et on passe à autre chose, notamment pour obtenir l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire ou bien recommencer les démarches pour une réinscription.
Dans le même chapitre, Christian Tabaro Mugisho, chercheur en intelligence artificielle, encourage le gouvernement congolais à continuer à utiliser cet outil qui, selon lui, renforce les capacités de l'homme sur des tâches qui étaient répétitives et longues. Le chercheur en intelligence artificielle salue la correction plus rapide cette année de l'examen d'État grâce à cette nouvelle technologie. Christian Tabaro Mugisho, au micro de Jean-Désiré Kanyama.
L'intelligence artificielle n'est qu'un système qui apprend ce que vous faites. Et il apprend et il perfectionne cela. Ça veut dire que tout simplement, il a appris sur base de tous les différents items précédents de toutes les années. Il a appris ce que les humains font déjà parfaitement bien. Et il a perfectionné cette tâche. La différence, c'est que là où vous prendrez 1-2 minutes à lire et à choisir la bonne réponse, ça lui prendra 1 milliseconde.
Et ça se fait comment concrètement pour le cas des examens d'État?
Le système, en soi, a déjà compris comment est-ce qu'il faut corriger, a les bonnes réponses. Tout ce qu'il y a, c'est que vous lui donnez les images comme des images que vous prenez. À chaque fois qu'il reçoit une image, il identifie que cette image ou ce document appartient à Monsieur Jean Désiré et il corrige toutes les réponses en 1 milliseconde. Celle-ci, elle est bonne parce que j'ai eu une question pareille dans un item en 2020 dont la bonne réponse était celle-ci. Celle-ci est compatible. Celle-ci, elle est probabilistique. Donc, elle envoie à une correction humaine. Celle-ci, elle est correcte. Et tout cela qui fait qu'on peut aller sur un ratio de 1000 items en 1 seconde.
Pour toute la République, c'est faisable.
C'est faisable totalement.
Ce qui a été fait donc est vrai et correct.
C'est possible. Totalement. C'est ainsi que je vous dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cet outil. Cet outil vient renforcer les capacité de l'homme sur des tâches qui étaient répétitives et lentes. Donc cet outil ne résout pas seulement le problème d'examen d'état, mais peut résoudre aussi beaucoup de problèmes dans l'éducation.
Notez que Christian Tabaro Mugisho est l'invité de ce journal. Les populations de Iga Barrière et Lopa, deux entités situées à moins de 35 km au nord de Bunia, territoire de Djouganitouri, doivent regagner leurs entités respectives pour mener une vie normale comme dans le passé. C'est l'appel lancé lundi par le commandant FARDC qui conduit les opérations dans cette région au cours d'une causerie morale tenue avec les chefs locaux à Linj Centre. Il rassure que les FARDC sont déterminés à sécuriser la population de ces milieux sous menace des miliciens de la CRP. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis samedi 2 août dernier que le FRDC ont fait l'air entre eux dans le village de Iga Barrière, Lopa, sur la route nationale numéro 27 dans la chefferie de Baïma Bagourou. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, c'était après des affrontements avec des éléments zaïrs associés à la rébellion de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Ces deux entités, vidées de leurs habitats, étaient plusieurs fois théâtre des combats entre l'armée et cette milice réfractaire au processus des pays. Lundi, dans le cadre de l'approche civilo-militaire, les responsables des opérations FRDC a demandé aux populations Idiga Barrière et Lopa qui avaient fui de retourner dans leur village pour vaquer normalement à leurs occupations. Tout en demandant à la population de se désolidariser avec le mouvement CRP, ces hauts officiers de l'armée encouragent les habitants des agglomérations d'Iga, Lindji, Lopa, Lingo et Nizi d'éviter des attroupements pour permettre à l'armée de bien consolider la paix dans ces entités. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et à Beni au Nord Kivu, les tracasseries dont sont victimes les taximens moto sur plusieurs axes routiers reliant la ville aux localités du territoire de Beni ont été au centre d'un échange lundi entre une délégation de leur corporation et le vice-gouverneur. Ils ont demandé à l'autorité provinciale d'intervenir pour mettre fin à cette situation. Marc Marufimbo nous en dit plus.
La délégation des taximens moto, accompagnée de deux députés provinciaux, a remis à l'autorité provinciale une lettre dénonçant plusieurs formes de tracasserie de la part de certains services de sécurité. Parmi les plaintes figurent les paiements obligatoires de 20 000 francs congolais pour l'identification à la mairie, ainsi que la perception d'une taxe de stationnement aux quatre principales barrières de sortie de la ville, mais aussi sur les routes agricoles des secteurs de Benimbao, Rwenzori, les chefferies et communes rurales. Selon eux, ces taxes devraient être perçues uniquement dans les parkings aménagés par l'État. La lettre mentionne aussi un bouclage permanent au carrefour de la police de circulation routière à Passissi vers la sortie ouest de la ville de Beni, qualifiée de sans fin. Les taximens dénoncent également la multiplication des barrières illégales sur les axes Mangango, Mavivi, Mokulia, Paida et Makeke, ainsi que sur les routes agricoles des secteurs de Benimbao et Rwenzori. Ils doivent y payer entre 500 et 1000 francs congolais à chaque passage sans quittance ni versement au trésor public. S'ajoute une taxe imposée par la mairie sur les quatre barrières de sortie de Beni. Le vice-gouverneur a assuré qu'une réponse urgente sera apportée dans les prochains jours pour soulager les conducteurs et rétablir un climat de travail plus juste. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Cette nouvelle en bref, la Fédération des entreprises du Congo FEC exprime sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays malgré les initiatives de paix menées notamment par les États-Unis et le Qatar. Dans un communiqué publié hier, elle condamne fermement la spoliation des biens de son vice-président national Joseph Kazibaziba Maombi à Bukavu, une ville sous occupation des rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. Parmi les biens concernés, il y a notamment un immeuble de 4 étages, une villa, des véhicules et 33 tonnes de minerais. La FEC dénonce une spoliation et une atteinte grave au climat des affaires, à la libre entreprise et à l'état des droits. L'organisation patronale rappelle l'urgence de mettre fin aux hostilités et de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Retour à Ituri, le pont Mbogou, situé sur l'axe Bunia-Kasenyi, au bord du lac Albert, et reliant également Bunia à Boga et Kainama dans le nord Kivu, menace de s'effondrer. En cause, la dégradation avancée de la structure métallique. Conséquence directe, des dizaines de camions chargés des marchandises en provenance des pays voisins sont bloqués depuis 2 jours. Les transporteurs dénoncent l'inaction du gouvernement. Isaac Raymond.
C'est depuis le week-end dernier que les aciers de soutien du pont Mbogou ont cédé sous le poids d'un camion lourdement chargé. Depuis, plus aucun poids lourd ne peut franchir ces ponts sans risque d'effondrement. Seuls les véhicules légers et les motos y passent encore en attendant une intervention technique. Mais sur place, au moins 50 camions transportant des marchandises en provenance de l'Ouganda sont bloqués depuis dimanche. La file des véhicules continue de s'allonger chaque jour, paralysant les trafics sur ces tronçons stratégiques. Des commerçants visiblement inquiets doute que leurs produits périssables, tomates, pommes de terre et autres denrées importées de l'Ouganda ne pourrissent. Ils appellent le gouvernement à intervenir rapidement pour réparer cet ouvrage d'une importance capitale. Cette route relie l'Ituri à l'Ouganda et dessert plusieurs localités agricoles comme Geti, Aveba, Boga ou encore Tchabi. Elle permet également de rejoindre le Nord Kivu via Kainama. À ce stade, aucune réaction officielle du gouvernement n'a été enregistrée. Mais du côté de la société civile, certains acteurs pointent du doigt le non-respect des charges maximales autorisées. Selon eux, des véhicules de plus de 80 tonnes empruntent ces ponts conçus pour supporter au maximum 30 tonnes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En Nord Kivu, la MONUSCO, à travers sa section des affaires civiles de Beni, a lancé ce mardi à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, les travaux de construction d'un bureau destiné à la société civile territoriale, financé à hauteur de 48 000 dollars américains dans le cadre des projets à impact rapide et initiés à la demande de la société civile. Le bâtiment comprendra un bureau pour le président, un autre pour les rapporteurs, une salle d'accueil avec secrétariat, un espace d'archivage et une grande salle de réunion. Ce projet vise à renforcer les capacités de la société civile en prévision du retrait progressif de la MONUSCO dans la région. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Béni, a salué la pertinence de ces projets.
Avoir un bureau propre à la société civile, c'était un réel besoin, parce que c'est à partir d'ici où nous réfléchirons, où nous partirons pour aller répondre aux désidérateurs de la population, pour mener des plaidoyers, pousser l'autorité à agir pour le bien de nos communautés.
Le colonel Marcel Kaloni, administrateur adjoint du territoire de Béni, a lui aussi exprimé sa gratitude envers la MONUSCO.
La société civile ici, c'est notre partenaire. Ce n'est pas un rival pour l'autorité, c'est un partenaire. Parce que sans la société civile, l'autorité ne saura pas aussi comment se comporter. Et c'est pourquoi je remercie nos partenaires, la MONUSCO.
De son côté, Adam Salami, responsable de la section des affaires civiles de la MONUSCO Béni, a rappelé la portée stratégique de cet accompagnement.
C'est un appui très important pour la MONUSCO de soutenir la société civile afin qu'elle continue de jouer son rôle de gardienne de la démocratie et d'appui aux institutions.
Les travaux sont prévus pour une durée de 3 mois. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Direction le Kasaï central, où la crise qui secoue l'Assemblée provinciale, désormais divisée en 2 camps, suscite l'inquiétude au sein de la population. Des habitants de Kananga interrogés estiment que ces tensions freinent le développement de la province. Ils appellent les députés provinciaux à mettre fin à ces querelles et à se concentrer sur les véritables préoccupations pour lesquelles ils ont été élus. Les réactions des uns et des autres recueillies par François Kadima.
Nous sommes très très déçus. Nous regrettons du fait que aujourd'hui, tous les temps, on les passe dans les tiraillements, dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général.
Politiquement, cette situation montre qu'il y a encore un problème de culture démocratique. Beaucoup oublient qu'aucun député provincial n'a été élu pour être président, rapporteur ou questeur. Ils sont tous élus pour représenter la population, voter les édits et contrôler le gouvernement provincial.
L'Assemblée provinciale est frappée par un malaise inédit. Le vrai problème, c'est que des pesanteurs politiques téléguidés depuis Kinshasa qui ont fait à ce que aujourd'hui le temple de la démocratie soit divisé en 2 groupes. C'est l'intervention du VPM de l'intérieur a choisi un camp et cela entrave les lois du pays.
Nos élus, ils doivent se concentrer essentiellement aux problèmes de la population, à l'intérêt général.
Le ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a distribué ce mardi 1 million de plantules aux agriculteurs de la province de la Tchopo. Chiffre donné à Kinshasa par le ministre des tutelles lors de la quatrième réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et des forêts dégradées. Selon Grégoire Mouchaï Moutom, ce programme est l'épine dorsale de son action et vise à prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Blaise Shindani Kambala nous en parle.
Prenant la parole en premier, le secrétaire exécutif du Fonared reconnaît le retard que connaît sa structure dans le processus de pérennisation de ce programme. Bafon Samputu.
Le Fonared reconnaît des retards préoccupants observés dans les effets 3, 4 et 5. Le fonds d'innovation agricole affiche un taux d'exécution d'à peine 11%. La réplicabilité territoriale reste à zéro et les suivis environnementaux peinent à dépasser les 38%. Ces chiffres traduisent des risques réels pour la pérennité du programme et pour la mobilisation des financements additionnels.
Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'agriculture n'est pas parti par le dos de la cuillère. Il ne veut plus de théorie, mais la pratique pour rendre effective les recommandations du chef de l'État, celle de faire des activités champêtres le socle de l'économie nationale.
Je ne veux plus beaucoup de théories. Nous allons former 1000 personnes. Après formation, après 3 ans de formation, qu'est-ce que le pays va gagner? Je veux des formations sur le terrain avec les bénéficiaires. Lorsqu'ils transplantent les 5 millions de plantules, le pays va bénéficier après 3 ans. C'est ça le pragmatisme que je recherche maintenant.
Grégoire Mouchaï Mouton a en outre annoncé l'installation dans les tout prochains jours dans la province de la Tchopo de la première usine de transformation des cafés en Afrique centrale.
Actualité internationale.
En Guinée, l'opposition dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne du oui au référendum sur le projet des nouvelles constitutions. Dans un décret lu le lundi 4 août, le président de la transition a convoqué le corps électoral pour le 21 septembre 2025, ce qui entérine la date du référendum plusieurs fois repoussée depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya en 2021. Dans cette perspective, le gouvernement a entamé une campagne de vulgarisation du contenu de ces projets depuis quelques semaines partout en Guinée. Mais cet exercice de vulgarisation suscite la polémique.
L'invité.
C'est Christian Tabaru Mugisho, chercheur en intelligence artificielle. Il nous parle de l'utilisation de cet outil dans la publication des résultats de l'examen d'État édition 2025 en RDC. Christian Tabaru Mugisho s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Christian Tabaru, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Désiré.
Les examens d'État viennent d'être publiés très rapidement par rapport aux autres années et on nous parle de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Comment ça peut vite aller comme ça?
Si je veux brièvement expliquer de quoi il s'agit, l'intelligence artificielle n'est qu'un système qui apprend ce que vous faites et il apprend et il perfectionne cela. Ça veut dire que tout simplement il a appris sur base de tous les différents items précédents de toutes les années. Il a appris ce que les humains font déjà parfaitement bien et il a perfectionné cette tâche. La différence c'est que là où vous prendrez 1-2 minutes à lire et à choisir la bonne réponse, ça lui prendra 1 milliseconde.
Et ça se fait comment concrètement pour le cas des examens d'État?
Le système en soi a déjà compris comment est-ce qu'il faut corriger, a les bonnes réponses. Tout ce qu'il y a, c'est que vous lui donnez les images comme des images que vous prenez. À chaque fois qu'il reçoit une image, il identifie que cette image ou ce document appartient à Monsieur Jean-Désiré et il corrige toutes les réponses en 1 milliseconde. Celle-ci, elle est bonne parce que j'ai eu une question pareille dans un item en 2020 dont la bonne réponse était celle-ci. Celle-ci est compatible. Celle-ci, elle est probabilitique. Donc, elle envoie à une correction humaine. Celle-ci, elle est correcte. Et tout cela qui fait qu'on peut aller sur un ratio de 1000 items en 1 seconde.
Sur toute la République, c'est faisable?
C'est faisable totalement.
Et ce qui a été fait donc est vrai et correct?
C'est possible, totalement. C'est ainsi que je vous dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cet outil. Cet outil vient renforcer les capacités de l'homme sur des tâches qui étaient répétitives et lentes. Donc, cet outil ne résout pas seulement le problème d'examen d'État, mais peut résoudre aussi beaucoup de problèmes dans l'éducation. Au niveau secondaire et avec les examens d'État, c'est la vitesse auquel nous pouvons produire cela. Encore, il y a une problématique qui est soulevée. On a autant d'informations. Comment est-ce qu'on s'assure que les élèves ou les apprenants qui font ces examens-là sont corrigés d'une manière éthique? Quand un être humain corrige, il ne corrige pas seulement avec son intelligence, mais avec les émotions. On peut voir que quelqu'un était sur la bonne voie, mais s'est arrêté quelque part. Cela n'empêche pas qu'il ait des points.
Quelle est la probabilité de se tromper en utilisant l'intelligence artificielle?
Pour le système, il n'y a pas de probabilité de se tromper. Les probabilités sont faibles, mais il y a un problème. C'est un problème d'éthique, comme je l'ai dit. Quand un enseignant ou un professeur ou quelqu'un qui corrige un item manuellement, ne corrige pas seulement avec son intelligence, mais même avec les émotions. Il voit la procédure que l'élève a commencé et a compris que l'élève était sur la bonne voie. Il ne s'est perdu qu'à la fin. Cela lui permet d'avoir peut-être, si c'était une question à 2 points, d'avoir 1,75. Mais pour un système, c'est non. Ça veut dire que vous avez échoué.
Et celui qui utilise l'intelligence artificielle n'a la possibilité aussi de manipuler, de manigancer ou de faire de fausses corrections?
Malheureusement, une fois que le système a acquis la méthodologie à appliquer, il ne commet pas d'erreur. Si la méthodologie au départ était mauvaise, la méthodologie d'apprentissage de ce système était mauvaise, la résultante sera aussi mauvaise. Mais s'il a appris que la méthodologie est parfaite, elle ne va appliquer que la méthodologie qui lui a été enseignée, sans faute et avec une précision chirurgicale.
Alors donc ceux qui tirent à boulet rouge sur la ministre, cette rapidité, ils n'ont pas raison?
Oui, mais aujourd'hui on ne corrige pas des fois sur base seulement de l'intellect. Il y a aussi les émotions qu'on met, on sait voir, on sait connaître cet élève. Dire qu'il était sur la bonne voie, il s'est tout simplement trompé, ce n'est qu'un être humain.
Et ça on n'a pas utilisé?
Ça c'est impossible pour un ordinateur, il reste une machine. Pour lui, soit la lumière est allumée, soit elle est éteinte. Soit vous avez réussi, soit vous avez échoué.
Et ça, ce sont des erreurs aussi?
Ce sont des erreurs. Moi, je crois qu'il y a ce côté éthique qui doit être discuté et c'est important.
Et comment résoudre cette erreur, par exemple?
Ces problèmes éthiques, je crois que c'est un problème d'ordre très humain qui va en dehors de mon secteur. C'est de la psychologie, c'est tout ce qui vient avec. Mais je pense que c'est une question qui doit être soulevée. Nous corrigeons, oui, avec des systèmes automatisés. Mais est-ce que cela empêche qu'une personne ait échoué? Il était à 90% de la résolution et qu'il a manqué des temps. Qu'on dise qu'il a 0 sur cette question, ça, c'est pas équitable.
Et c'est ce qui crée des frustrations?
Bien sûr, ça va créer une certaine frustration. On va dire que j'étais à 90%, j'ai manqué du temps. Cela n'empêche pas que j'ai une effice que 1,5 ou 2 points. Ça, c'est un exemple.
Mais cela n'empêche, on doit continuer avec l'intelligence artificielle?
Bien sûr, on doit, parce qu'on a besoin de cet outil. Le volume que nous avons ne peut pas être traité par des humains avec un temps record. C'est impossible.
Mais ça va créer des chômeurs, tous ces inspecteurs qui corrigent.
Moi, je crois que toutes les personnes doivent se réadapter maintenant. Aujourd'hui, les inspecteurs doivent se réadapter à entraîner et à optimiser, à rendre beaucoup plus intelligent cette intelligence. Je crois que c'est l'opportunité qui s'ouvre. Parce qu'au final, elle ne crée rien de concret. Elle crée des hypothèses. Et ce sont les êtres humains qui confirment ces hypothèses. C'est où les inspecteurs peuvent se positionner.
Mais vous qui êtes dans ce secteur d'intelligence artificielle, y compris le ministre, vous ne faites pas des campagnes pour faire comprendre aux Congolais ça signifie quoi et qu'est-ce que ça peut donner comme avantage?
L'opportunité que déjà que vous m'avez donnée de m'exprimer par ce micro est déjà une première porte d'ouverture pour cette campagne-là. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière à la radio Capi. Ce système n'est qu'un bras, un outil qui nous permet de faire ce que nous faisions beaucoup plus rapidement, mais sous une supervision, j'insiste, une supervision humaine.
À Christian Tabarro, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
8h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa et supervisé par Pauli Muzalia. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de la matinale avec Kaki Akewa.